enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Lisons ensemble un texte dans Genèse chapitre 12. Mon thème, c'est « En route avec Abraham » et mon sous-thème sera « Le test de la déception ». Il avait étudié la dernière fois qu'Abraham était un homme comme nous, un monsieur tout le monde. Rien de spécial, pas de caractéristiques particulières, non, pas d'auréole au-dessus de la tête, pas de démarche très sainte, rien de tout cela. Un homme comme tout le monde, qui avait bien travaillé, avait des richesses apparemment, et finalement, était sensible à la voix de Dieu. Et cet homme qui n'a rien de spécial va commencer à cheminer avec Dieu. Et à la fin de ses jours, Dieu va l'appeler le père des croyants. Mieux que ça, l'apôtre Jacques, dans son épître, l'appelle l'ami de Dieu. Et je me suis souvent interrogé, pourquoi et comment un homme comme Monsieur Tout le Monde, comme Abraham, à la fin de ses jours, a pu être appelé l'ami de Dieu. D'autant plus qu'il est appelé le père des croyants. Et nous sommes des croyants, donc spirituellement, nous descendons d'Abraham. Tel père, tel fils et telle fille aussi, bien sûr. Genèse 12. Nous avions lu déjà Genèse 11, verset 31. On trouve la Térakh. C'est le père d'Abraham, pris d'Abraham, son fils est Lot, fils d'Aran, fils de son fils est Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan ou Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 205 ans et Térakh mourut à Charan. Acte 7, verset 2 nous dit que Abraham était en Mésopotamie. Et avant qu'il ne sortît de là-bas, Dieu lui était apparu. Mais en fait, que c'est Térakh qui a fait le premier pas. C'est lui qui a permis à Abraham d'avancer et de sortir et de commencer à obéir à ce que Dieu va lui dire dans Genèse 12, verset 1. Il est marqué là, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, etc. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller de Charan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Et là, nous lisons, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il y dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi, et nous continuerons la lecture dans un instant. Si on prend les différents textes qui concernent ce passage de la vie d'Abraham, je vous les cite, Josué 24, verset 2, acte 7, verset 2, on se rend compte qu'Abraham avait entendu la voix de Dieu lui parler au temps où il habitait encore avec son père Térakh à Ur en Chaldée. Mais visiblement, Abraham n'a pas eu le courage de mettre en pratique entièrement ce que Dieu lui avait dit. Et c'est son père Térakh qui va se lever avec lui et ils vont aller faire un bout de chemin vers Canaan. Et sont arrivés à Charan. Étonnamment, Charan veut dire terre aride. Et Térakh veut dire retardement. Au lieu d'écouter Dieu et de faire ce qui avait été demandé, eh bien, il va être retardé. Abraham sera retardé par son propre père, et finalement, pour différentes raisons, il va finir dans un lieu sec et aride où il va tourner en rond. C'est qu'à la mort de son père qu'il va se lever et aller plus loin. Et nous avons vu ensemble qu'Abraham a été appelé le premier hébreu, celui qui veut dire qu'il a traversé le fleuve. Et tout au long de sa vie, Abraham va traverser différentes frontières. La frontière de son pays, le fleuve, mais aussi la frontière de ses peurs. Imaginez-vous, à 75 ans, tout lâcher. Il a lâché ses sécurités. Il a lâché ses repères. Il a lâché son environnement familial. Il va obéir à Dieu et traverser différentes frontières. Et finalement, il va ainsi rentrer dans le chemin, dans le plan de Dieu pour sa vie. Abraham. Sa foi au départ n'est pas une foi musclée et forte. Non, elle était fragile. Et il a fallu tout un cheminement pour qu'elle se construise, qu'elle mûrisse et qu'elle devienne solide. Et que finalement, Abraham rentre dans le pays que Dieu lui avait promis. Il y avait un pays physique, mais aussi un pays, entre guillemets, génétique et spirituel, sa descendance. On a lu ensemble qu'il fera de lui une grande nation et qu'il le bénirait. Abraham était encore seul avec sa femme et pas de descendant. Aucun descendant parce que Sarai était stérile. Et c'est ça pour Abraham le grand problème de sa vie, de ne pas avoir de descendant. Mais Dieu connaît son besoin. Et Dieu, au-delà du descendant physique qu'il veut lui donner, il veut amener Abraham à un niveau plus élevé et lui donner une descendance aussi spirituelle. Alors voyons comment Abraham a grandi, comment sa foi s'est développée, parce que quelque part, nous allons singulièrement lui ressembler. Tout d'abord, une fois qu'il commence vraiment à obéir, Abraham va devenir un homme de prière et d'adoration. La première des choses qu'il fait en arrivant en Canaan, c'est de parcourir le pays comme un roi, et finalement il est dit au verset 8 qu'il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham, tout au long de sa vie, il va bâtir des autels. Et si vous aviez habité à l'époque d'Abraham auprès de lui, on aurait pu suivre Abraham à la trace. Chaque fois qu'il y avait un autel, à coup sûr, c'était lui. C'est lui qui bâtissait un autel. Abraham était un homme de prière. Et je nous encourage et je vous encourage à devenir des hommes et des femmes de prière. On le dit, on le répète, on ne le répétera sûrement jamais assez, mais la prière est aux chrétiens ce que le travail de la chaussure est aux cordonniers, ce que les casseroles sont aux cuisiniers, ce que les outils du garagiste sont aux garagistes. La prière est l'ouvrage du chrétien. Il y a des choses que nous ne verrons pas autrement se dénouer que dans et par la prière. La prière n'est pas un bras de fer avec Dieu. La prière est au contraire moi qui m'accorde avec la pensée de Dieu. Amen. Deuxième point qui a amené Abraham à grandir dans sa foi, à se développer, c'est qu'Abraham avait appris à vivre la tension entre la chair et l'esprit. Regardez voir au verset 8, il est marqué que Abraham dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Savez-vous que Bethel veut dire maison de l'Éternel? Mais le mot Haï veut dire tas de ruines. Abraham était entre la maison de l'Éternel et le tas de ruines. Et c'est exactement là où nous sommes nous aussi. Autrefois, nous menions nos vies comme nous voulions, et finalement, le salaire du péché, c'était la mort, le tas de ruines. Mais ayant reçu Christ en nous, on est sorti de Haï pour aller vers la maison de l'Éternel, vers Bethel, et quelque part, tous les jours, au quotidien, on vit la tension entre le chemin de la mort qui mène à Haï et le chemin de la vie qui mène toujours à nouveau à la maison de Dieu, pas forcément physiquement à la maison de Dieu, mais à la maison de Dieu où j'ai avec Dieu au quotidien une communion avec lui. Et nous allons voir après comment, à un moment donné, à cause de sa foi fragile, à un moment donné, Abraham va choisir plutôt le chemin d'Aï que le chemin de Bethel. Troisième point ce soir, il est marqué aussi au verset 8 qu'Abraham a dressé ses tentes. Apparemment, avant de connaître Dieu, Abraham vivait dans la ville d'Ur en Chaldée. Dans la ville, à mon avis, il n'y avait pas de tente. Il y avait des maisons solides, des toits solides. Abraham était assis. Il était bien là où il était. Quand il a commencé à marcher avec Dieu, Abraham est devenu un nomade, un pèlerin sur terre. Il a commencé à cheminer en écoutant la voix de l'Esprit. Et il a appris à se lever quand il fallait se lever, à cheminer quand il fallait cheminer et à faire ce qu'il fallait faire. Et Abraham, dans le fait qu'il a choisi de vivre sous tente, en fait s'est rendu disponible à l'Éternel. Question simple, qui d'entre nous aurait accepté le défi qu'a accepté Abraham? Allez, honnêtement, à 75 ans, la retraite bien tapée déjà. Tout va bien, elle tombe tous les mois à la retraite, on va à la pêche le matin, après midi on fait la petite sieste. Allez, cool la vie. Abraham s'est levé et constamment il est resté à l'écoute de Dieu. Et il s'est déplacé avec Dieu. Papa Jean aurait pu rester un bon commerçant, bien assis dans son commerce, gagnant bien sa vie. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il est allé faire dans ce boulot de pasteur? On pourrait multiplier les exemples, moi y compris. J'avais un job assuré, une carrière bien tracée. Franchement. Mais quand Jésus vient habiter dans un cœur, il nous amène à devenir des nomades qui marchons avec Dieu. Amen. Et voyez-vous, voilà qu'arrive un moment donné, Abraham s'est levé, il a pris du retard pour obéir, mais quand même finalement il a obéi, il est devenu un homme de prière, un homme sensible à la voix de l'Esprit, conscient de la tension entre la chair, la ville d'Aï, et Bethel, la ville de l'Esprit. Maintenant, enfin, il obéit, et il est marqué encore une fois de plus qu'Abraham continua, pardon, il est marqué verset 5, 8, il bâtit encore là un autel, il continue de prier, il obéit, il fait ce qu'on nous demande de faire. Finalement, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Dieu quand on obéit? Vous avez dit? Ok, lisons le verset 10 ensemble. Il est marqué là, il y eut une famine dans le pays. Alors, imagine Abraham, il a tout quitté dans son pays, là-bas, chez lui, une belle maison, une belle villa, une bonne retraite, bien bonne. Une femme sympathique qui l'a emmené, mais elle a dû, elle aussi, cheminer avec lui. Tout allait bien là-bas, et maintenant qu'il arrive ici, qu'il a obéi à Dieu, qu'il prétend avoir écouté Dieu. Famine, ceinture, déception. Et bien aimé, ce moment de déception va devenir un moment déterminant pour la vie d'Abraham. Il se peut, mon cher frère, ma chère sœur, que tu aies commencé à marcher avec Dieu, que tu aies commencé à sortir à Dieu, à prier tous les matins, à prendre du temps pour aller le dimanche à l'église, au lieu d'aller au foot ou au vélo ou à la pétanque, que tu aies commencé à mettre dans ta vie de l'ordre, que tu aies commencé à faire le choix entre la mort et la vie, Haï et Bethel, que tu continues d'obéir et de prier, et tu te dis, maintenant, enfin, il va me bénir. Aïe, 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 déception. Frères, sœurs, ce genre de moments arriveront aussi dans votre vie. Tel père, tel fils et telle fille. Et nous allons vivre ce genre de moments-là aussi. Abraham est déçu, et il n'y aura aucune autre solution possible que celle de descendre en Égypte. On lit ensemble, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Ce n'était pas juste une petite pression économique, une petite déflation. Non, non, une véritable crise économique, avec réduction de salaire, avec réduction des ressources, au point que tout le monde jeûnait plus qu'il ne mangeait. Et Abraham, maintenant, est confronté dans sa tête un problème. Dieu m'a dit de venir ici. Maintenant, je fais comment pour continuer ? Et Abraham, un homme d'affaires avisé, il se souvient des longues histoires des nomades ismaélites qui traversaient à l'époque les pays, et il se souvenait qu'en Égypte, il y avait le fleuve du Nil et les belles berges arrosées. Et il se dit, allons en Égypte. Et l'Égypte, dans ce contexte-là, c'est le pays physique, certes, mais c'est aussi un symbole pour un système de pensée qui a éliminé Dieu de l'histoire. C'est le monde. Non pas les hommes et les femmes du monde, n'est-ce pas ? Non pas non plus les forêts, les fleuves, les lacs. Pas de ça que je parle. Le monde dans le sens un système de pensée, une société qui a un système de pensée qui a éliminé Dieu de son schéma. Abraham descend en Égypte. Remarquez, il est marqué le mot « descendre ». Et avec la descente en Égypte, il va aussi descendre spirituellement. Ceci dit, l'Égypte en tant que telle est un pays formidable, avec des gens formidables que Dieu aime, et là-bas, il sauve actuellement des personnes. Amen. Mais l'Égypte dans le sens spirituel. Bien-aimé, quelle aurait été votre réaction face à un tel problème ? Comment auriez-vous réagi ? Vous commencez à vous tourner vers Dieu. Vous commencez à cheminer avec lui. Il rentre dans votre cœur. Vous passez par le fleuve du baptême. Vous commencez à cheminer. Vous êtes obéissant. Et finalement, quelqu'un dans l'église vous déçoit. Ah, les chrétiens me déçoivent. Ah, si le pasteur était un vrai pasteur, il s'occuperait de moi, n'est-ce pas ? Ah, le frère un tel, la sœur une telle, elle a oublié de me saluer ce dimanche matin. On est déçu. Et finalement, on descend en Égypte. Abraham descend en Égypte, et j'aimerais vous dire, on ne s'élève pas en cherchant à prendre appui sur le monde. Au contraire, on s'avilit. Tout d'abord, Abraham aura peur. Regardez voir ce qu'il va faire là. Lisons ensemble. Comme il était près d'entrer en Égypte, verset 11, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure, malgré son âge. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham, à cause d'elle, évidemment, le prenant pour son frère. Et Abraham reçut des brebis et des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Quand on descend en Égypte, on s'avilit. Abraham a eu peur. Et parce qu'il a eu peur, il va commencer à mentir. Oui, certes, Saraï était sa demi-sœur. Mais ce n'était pas que sa sœur, c'était aussi sa femme. Il a menti. Et finalement, il se corrompt même. Il reçoit des cadeaux. Des bœufs, des brebis, c'est intéressant, n'est-ce pas ? Mais au fond de lui, il devait savoir qu'il était en train de livrer à un autre homme celle que son cœur aimait. Laissez-moi vous dire quelque chose, Abraham, à ce moment-là, était lâche. Et pourtant Dieu en fait le père des croyants et son ami. Si vous allez un petit peu à la dernière guerre mondiale, elle est remplie d'histoires de lâcheté. Autant chez les Français que chez les Allemands, que chez les Anglais, que chez les Américains. Des lâches, des hommes corrompus. Pour 3 fois rien, on a vendu son voisin juif à la Gestapo. Abraham descendit en Égypte et il s'y avilit. Et il commet 2 erreurs fondamentales. La première, il a oublié la promesse de Dieu que nous avons lue dans Genèse 12, verset 2. « Je ferai de toi une grande nation. » Abraham s'est dit, « Si je reste à Canaan avec la famine, je vais mourir. » Mais Dieu n'avait jamais dit d'aller en Égypte. Alors lui s'est dit, si je vais en Égypte, je ne mourrai pas. J'aimerais vous dire qu'Abraham aurait pu rester à Canaan et y voir la providence divine venir régler son problème économique, parce que ce que Dieu promet, il le fait. Seconde erreur, il n'a pas mesuré les conséquences de ses choix. Première conséquence, Il perd la crédibilité aux yeux de Pharaon. Quand Pharaon découvre le manège, il dit « Mais tu m'as trompé, Abraham, tu m'as trompé. Tu crois en Dieu, toi tu es un croyant et tu me trompes. » C'est quoi ça? Allez, fous le camp. Je résume deux versets en une phrase, certes. Comment voulez-vous être un témoin auprès des gens du monde si vous vous appuyez sur les mêmes raisonnements qu'eux pour arriver à vos fins? Impossible. Vous perdez la crédibilité aux yeux des gens du monde. Deuxième conséquence, il a perdu le cœur de sa femme. Mesdames, mesdemoiselles, imaginez que votre mari, votre futur mari, vous traite de la sorte comme Abraham a traité Sarai. Qu'est-ce que vous penseriez de lui? Mesdames, réagissez s'il vous plaît. M'inquiétez là. Attendez, votre mari essaye de sauver sa peau et pour ça il vous vend comme ça. Allez, dans les bras d'un autre. Mais attendez, je crois rêver là. C'est hallucinant. C'était Abraham. Il a perdu le cœur de sa femme. Je me demande ce qu'a dû penser Sarai à l'égard de son mari. Serait-ce peut-être la raison pour laquelle elle a si facilement consenti plus tard à ce qu'il parte une nuit avec Agar? D'ailleurs, Agar, ils l'ont ramené de là, de ce voyage-là. Il l'a ramené d'Égypte à ce moment-là, pas avant. Troisième conséquence, l'influence négative sur Lot. Quelque temps plus tard, Lot et Abraham vont avoir un conflit à cause des pâturages manquants pour leur troupeau qui avait augmenté beaucoup. Et Abraham va dire en grand cœur, « Si tu vas au nord, j'irai au sud, si tu vas à l'est, j'irai à l'ouest. » Il est marqué, « Lot leva les yeux et vit les plaines fertiles du Jourdain. » Mais il oubliait qu'au bout de la plaine fertile du Jourdain, il y avait Sodome et Gomorre. Et que finalement, Sodome et Gomorre allaient avoir une influence néfaste sur sa vie spirituelle et celle de sa famille, et il va tout y perdre. Mais, excusez-moi, Lot avait vu faire son oncle d'abord. Il est parti lui aussi en Égypte, près des zones fertiles du Nil. Bien-aimés, nos choix ont des conséquences. Et dans les moments de déception, j'aimerais te dire, il vaut mieux rester avec Dieu dans la famine à Canaan, dans le lieu où Dieu t'a voulu, plutôt que d'aller te reposer sur les plaines fertiles et la prospérité de l'Égypte. Parce que tôt ou tard, ça sera comme un roseau cassé, tu vas t'appuyer dessus, ça va te transpercer la main. On peut dire amen à cela? Mais attendez voir, ce n'est pas terminé. La bonne nouvelle, c'est le verset 17. Abraham se fourroie dans ses raisonnements, dans ses peurs, dans ses lâchetés. Il se fourroie complètement. Il se fiche dedans. Mais au verset 17, il y a un virage. Il est marqué là. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer et sa femme avec tout ce qui lui appartenait. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. Voyez-vous, à un moment donné, parce que nous avons donné nos cœurs à Dieu, Dieu se mêle de nos histoires. Amen. Dieu a laissé Abraham faire un choix. Dans la déception, il a mal choisi. Il l'a laissé aller un temps en Égypte. Mais là, en Égypte, dans ses plus grandes bêtises, à un moment donné, Dieu se mêle de l'histoire et le ramène au bon port. Il le ramène au bon endroit. Et pour cela, Abraham, pardonnez-moi l'expression, se prend un coup de pied par un inconverti. Et on se dit, mais est-ce que Dieu ne savait pas qu'Abraham était dans une famine? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu intervenir plus tôt? Oui, Dieu aurait pu intervenir plus tôt, mais il a choisi de tester la foi d'Abraham par un temps de déception. Et ce temps était destiné à augmenter le volume du muscle de sa foi. Et les temps difficiles que nous traversons des fois sont destinés non pas à nous écraser, mais sont destinés à nous développer le muscle de la foi. On reconnaît le maçon au pied du mur. et à reconnaître la teneur de la foi d'un croyant au pied des difficultés. Et plus vous grandissez dans la foi, plus les difficultés vont aller en augmentant. Mais Dieu vous aura laissé passer par une école et étape après étape, la foi va augmenter et finalement elle va devenir mûre et solide. Et il pourra dire de vous, Bertrand, Gisèle, t'es mon ami, tu me fais confiance et ça m'honore. Amen. Abraham revient au point de départ. Verset suivant, Genèse 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Intéressant ça, hein? Il le ramène au point de départ. Entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Il priait Dieu. La leçon est la suivante. Lorsque Dieu nous mène dans des temps de difficulté, dans des temps où nous pourrions nous laisser décevoir, j'aimerais vous dire la chose suivante. Dieu ne nous mène jamais où sa grâce ne peut nous aider, nous secourir. Dieu ne nous mène jamais quelque part où sa grâce ne pourrait pas nous aider et nous secourir. Amen. Et Abraham va remonter d'Égypte et il remonte la pente spirituellement. Et il va revenir vers le point de départ, là où Dieu voulait l'avoir et où Dieu allait pourvoir. Et il s'était rendu compte que son problème n'était pas la famine, n'était pas Dieu, mais que le problème de fond était son cœur et son manque de confiance en Dieu. Et Abraham est retourné à l'autel, lieu de sacrifice, il a abandonné la voie d'Haï, il est revenu au lieu de restauration, à la maison de Dieu, lieu de guérison du cœur et de la relation, et c'est là qu'il invoqua le nom de l'Éternel. C'est là et pas ailleurs qu'Abraham aurait dû faire la seule chose utile en temps de famine, à savoir prier et faire confiance à Dieu. Dans Ésaïe 30, versets 15 à 18, il est laissé un conseil à tous ceux qui traversent des moments difficiles. Je voudrais vous le laisser. Ésaïe 30, verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline, c'est-à-dire seul et solitaire. » Abraham connaissait un moment difficile, il y avait là un choix à faire. Mon frère, ma sœur, je suis certain que cette parole s'adresse à plusieurs personnes parmi nous. Peut-être traverses-tu des moments difficiles, j'aimerais te dire, reste calme et confiant, c'est là que sera ta force. Si tu commences à courir comme Abraham, tu cours le risque de descendre en Égypte et d'essuyer un échec cinglant pour remonter après. Quel détour, quel malheur, quelles conséquences néfastes, malgré la remontée de l'Égypte. J'aimerais te dire, traverses-tu des moments difficiles, reste calme et confiant. Reste dans le repos et la tranquillité. Parle à ton Dieu, reprends le chemin de l'autel, prie, intercède et fais-lui confiance. Et au temps convenable, il t'enverra ce qu'il te faudra. Amen. Abraham, le père des croyants. J'aimerais vous dire, à ce niveau-là, essayons d'éviter de lui ressembler. Et si malgré tout, vous lui ressemblez déjà, vous êtes au fond de l'Égypte, empêtré dans les conséquences de vos lâchetés et de vos décisions hâtives, la bonne nouvelle, c'est que l'Éternel vous voit et vous connaît. et vous poursuit même en Égypte. Et il fera le nécessaire pour vous ramener de l'Égypte vers Canaan, vers le lieu où il vous voulait précédemment, vers le lieu de l'autel entre Bethel et Haï. Et finalement, il vous invitera à rechoisir Bethel. Revenez au point de départ et apprenez que Dieu est plus grand que votre problème. Rappelez-vous ses promesses. Si Abraham s'était rappelé de cette promesse, « Je ferai de toi une grande nation », il serait resté à Canaan. Parce que ce que Dieu dit, il le fait avec ou sans famine. Et malgré la famine, il le fait quand même. Il aurait donné à Abraham un fils ou une fille. Amen. Je voudrais terminer en disant la chose suivante à Monsieur Tout le Monde. Dieu a fait d'Abraham le père des croyants et finalement son ami. Il l'a fait traverser toutes sortes d'écoles très pratiques et il se peut que vous traversiez aussi une école très pratique. Ne lâchez pas sa main. Même là-bas au fond de l'Égypte, Dieu vous poursuit. Il vous cherche.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.